Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte.
Je vous raconte le procès de Bobigny en 1972. Le procès qui a ouvert le débat en France sur l'avortement et conduit dans la foulée au vote de la loi Veil. L'histoire d'une gamine de 16 ans, Marie-Claire Chevalier, qui tombe enceinte après un viol, qui avorte et qui se retrouve avec sa mère, l'avorteuse et deux amis qui les ont aidés devant le tribunal à Bobigny. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant sur le livre de Catherine Valenti chez Larousse, Bobigny, le procès de l'avortement. La réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
À la fin des années 50, Michel Chevalier est une fille-mère, comme on dit. Un homme lui a fait trois enfants, trois filles, et il s'est barré sans même les avoir reconnues. Michel se retrouve seul, avec trois filles à élever, sans argent. Alors elle les confie à sa mère, et elle se saigne aux quatre veines pour lui verser une petite pension, et elle vient les voir de temps en temps. Et puis au bout de quelques années, en 1965, Michel trouve enfin un emploi stable, à la RATP, sur la ligne du métro Mairie de Montreuil, Pont de Sèvres. 1500 francs par mois, 2300 francs avec les primes et les allocations. Et elle décroche un HLM, à Neuilly-Plaisance, pas le Neuilly des riches, hein, le Neuilly de Seine-Saint-Denis, dans la banlieue est de Paris. Elle s'y installe avec ses trois filles. Marie-Claire, son aînée, a alors 10 ans, et les deux autres, 9 et 8 ans. Quand on mènera une enquête de moralité sur cette mère, on ne trouvera rien à dire de mal. Elle s'est sacrifiée pour élever ses enfants. Elle a renoncé à toute vie personnelle. Et depuis le départ du père, elle n'a jamais plus ramené d'homme à la maison. La fille aînée de Michel, Marie-Claire, a maintenant 16 ans. À l'école, elle n'est pas très brillante. Elle a échoué dans un CET, un collège d'enseignement technique. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Marie-Claire?
Ben, je sais pas trop. Un métier par rapport aux enfants, quoi.
À 16 ans, Marie-Claire commence à s'intéresser aux garçons. Mais elle n'en parle pas à sa mère. À l'époque, au début des années 70, ça ne se fait pas. Même si 68 est passé par là. Au mois d'août 1971, Marie-Claire se met à fréquenter une bande de copains de son âge. Et un jour, elle fait la connaissance de Daniel, un garçon de 18 ans. Il sort de maison de correction pour de petits vols. Il est, comme on dit, en liberté surveillée. Et Marie-Claire, ben, il la trouve mignonne, ouais, mignonne. Lui est un peu plus âgé que le reste de la bande. Il a déjà son permis.
Ça te dirait que je t'emmène faire un tour en voiture ? Ben oui. Ça te dit de venir faire un tour chez moi? Il y aura ma mère, hein. Je voudrais te faire écouter des disques que je viens d'avoir. Oh ben d'accord.
Il lui a menti. Sa mère n'est pas chez lui et peut-être qu'elle n'a jamais habité là. Il l'emmène dans sa chambre. Il la jette sur son lit.
Pourquoi tu fais ça? T'es mignonne. Tu m'excites. Faut qu'on le fasse.
Et il lui arrache le collant, et il lui arrache la culotte, et elle hurle. Et là, il attrape une paire de ciseaux sur la table de nuit. Est-ce qu'il les avait mis là pour ça?
Si tu bouges, je te crève les yeux.
Il baisse son pantalon. C'est la première fois qu'elle voit un sexe en érection. Et il se jette sur elle, et il lui fait mal, très mal. Et quand il a fini, il se désintéresse d'elle. Il est là, sur le lit, sans bouger. Et elle ramasse ses vêtements. Et elle s'en va. Et elle se rhabille dans un coin du hall de l'immeuble. Elle traverse Neuilly-Plaisance en pleurant. Elle arrive chez elle, elle s'enferme dans la salle de bain. Elle se met sous la douche. Trois semaines plus tard, Marie-Claire a, comme elle dit, des troubles. Elle est enceinte. Elle hésite à en parler à sa mère. Mais comme elle est nerveuse, qu'elle ne mange plus, qu'elle ne dort plus, sa mère finit par se douter que quelque chose ne va pas. Alors elle lui dit tout.
Tu sais, si tu le veux, ce bébé, on se débrouillera.
Non, je suis pas capable d'élever un enfant.
Qui a eu l'idée de faire appel à une faiseuse d'anges? Qui a eu l'idée d'avorter? Marie-Claire elle-même ou Michel, sa mère?
Tu sais, maman, je veux pas connaître la même vie que la tienne.
Je te comprends, ma chérie. C'est vrai que c'est un fardeau.
Si on m'oblige à le garder, je l'abandonnerai. Je l'abandonnerai à l'assistance publique.
Marie-Claire recroise Daniel qui l'a violée. Il habite le quartier. Et elle lui dit qu'elle est enceinte. Et il le prend très mal. Il est violent. Ça la renforce. Elle ne veut pas d'enfant d'un garçon brutal. Quelques jours plus tard, Marie-Claire va voir son gynécologue.
Bien. Je vous confirme que vous êtes enceinte, mademoiselle.
Je veux avorter.
Je peux le faire si vous voulez. Mais ça sera 4500 francs.
4500 francs. Trois fois le salaire de sa mère. Il va falloir se débrouiller autrement. Michel, la mère, en parle à Lucette, une de ses collègues de la RATP. Lucette est très catholique. Elle lui dit que pour elle-même, elle préférerait mourir plutôt que d'avorter. Mais pour les autres, elle ne veut rien imposer, chacun sa liberté de conscience. Et donc elle-même, elle en parle à une autre collègue, Renée. Et c'est elle, Renée, qui donne à Michel le numéro de téléphone.
Tiens, Michel, c'est une avorteuse. Elle s'appelle Micheline Bambuc. Appelle-la.
Cette Micheline Bambuc, comme toutes les femmes d'ailleurs de cette histoire, élève elle-même trois enfants, seule. Son mari n'est pas parti, il s'est suicidé. Et avant, quand il faisait l'amour, son mari ne prenait pas de précautions. Il lui disait « c'est à toi de te débrouiller ». Alors plusieurs fois, elle s'est avortée elle-même, toute seule. C'est comme ça qu'elle a appris. Michel l'appelle. L'autre lui raccroche au nez. Alors elle la rappelle plusieurs fois.
Vous comprenez, c'est qu'elle est enceinte de 10 semaines. Faudrait pas traîner, quoi.
Bon, d'accord. Mais ça sera 1200 francs. Hein.
Michel rassemble ses économies. Elle en prend ce qui lui manque. Et le 5 novembre 1971, Micheline Bambuc vient voir Marie-Claire.
Bon, je vais te poser une gaine de fil électrique.
Faudra que tu la gardes 3 semaines. Et je viendrai régulièrement contrôler, hein.
Elle vient 5 fois pour contrôler. Et tous les jours, Marie-Claire va au collège, et pourtant elle a mal. Mais dans la nuit du 20 novembre, elle fait une grosse hémorragie. Elle se vide de son sang. Michel court téléphoner chez une voisine pour appeler les secours. Et Marie-Claire est transportée à la clinique Saint-François, à Paris. À l'arrivée, on lui demande 1200 francs. Elle ne les a pas. La mère donne 200 francs en liquide et un chèque en bois. Son hémorragie est jugulée sous anesthésie. Elle sort de la clinique 3 jours plus tard. Un jour, Marie-Claire croise à nouveau Daniel, son violeur, au pied de l'immeuble.
Je me suis fait avorter. J'ai failli y passer, mais je me suis fait avorter.
Quelques temps plus tard, ce Daniel tombe pour un vol de voiture. Et il se dit, si je veux la paix, il faut que je lâche quelque chose. Alors il balance Marie-Claire.
Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi je connais une fille, elle s'est fait avorter.
C'est lui qui l'a violée, c'est lui qui l'a mise enceinte, et c'est lui qui la balance. Le 12 janvier 1972, Michel, la mère, est au lit avec la grippe.
Ouvrez, madame, c'est la police.
Et Michel avoue tout de suite. Elle assume. Oui, elle a aidé sa fille à avorter.
Et puis crac, un beau jour, la police qui arrive à la maison, et puis voilà, le grand cinéma, madame, dites-nous tout, il vous arrivera rien, et puis hein, voilà où on en est aujourd'hui. C'est tout à fait injuste, c'est une loi qui est très injuste. La loi, elle est faite pour les riches, ceux qui ont les moyens d'aller en Angleterre, d'aller en Suisse, d'aller partout ailleurs. Bon, ben, ils ont de l'argent, c'est très bien, c'est la justice des pauvres, c'est ça.
Et les policiers perquisitionnent le petit appartement HLM. Et tous les acteurs de l'avortement de Marie-Claire sont inculpés. Marie-Claire, la maman, Lucette, la collègue de la RATP, René, qui a donné le numéro de la faiseuse d'ange, et bien sûr l'avorteuse, Micheline Bambuc. Quatre femmes, à qui on annonce qu'elles seront jugées. Marie-Claire, devant le tribunal pour enfants, le 11 octobre, et les quatre complices, le 8 novembre, devant le tribunal correctionnel de Bobigny. La mère et la fille sont au fond du trou. Marie-Claire s'en veut beaucoup d'avoir mis sa mère dans cette situation. Elle a des pensées suicidaires. Mais Michel est une combative et elle lit beaucoup. Et elle vient justement de lire le livre d'une avocate, Gisèle Halimi, au sujet d'une jeune militante du FLN torturée et violée par des para-français en Algérie. Elle va la voir fin janvier 1972 à son cabinet. Et tout de suite, Maître Halimi voit dans cette affaire une opportunité. Profiter de ce procès pour dénoncer la loi. L'article 317 du Code pénal qui dit, je lis, « Quiconque, par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende. Le procès de la petite se fera à huis clos, mais le procès de la mère et de ses trois complices sera public. Gisèle Halimi veut en faire le procès de la loi qui réprime l'avortement. Et l'association Choisir, qu'elle vient de créer avec l'écrivaine Simone de Beauvoir, sera le bras armé de ce combat. Les juges du tribunal pour enfants de Bobigny ont décidé que Marie-Claire serait jugée à huis clos. Ça n'est donc pas là que Maître Halimi pourra mener son combat. Mais tout de même, une réunion de Choisir a lieu quelques jours avant le procès de Marie-Claire. Et il est décidé d'imprimer des tracts.
Moi je propose qu'on aille distribuer ces tracts sur les marchés. On devrait mettre l'accent sur le fait qu'elle vient d'un milieu défavorisé. Que c'est parce qu'elle est pauvre qu'elle est là.
Le tract appelle à manifester devant le tribunal le 11 octobre à 9h. Le dimanche qui précède, les militantes du mouvement de libération de la femme et de Choisir vont distribuer plus d'un millier de tracts sur le marché de Bobigny. Et le lendemain, le 9, une première manifestation est organisée place de l'Opéra à Paris. Quelques centaines de manifestants qui scandent le prénom de Marie-Claire. Et le matin du 11, le jour du procès de Marie-Claire, c'est une foule compacte qui se presse devant le palais de justice. 250 personnes et quelques personnalités. L'actrice Delphine Seyrig est là, avec son compagnon, Samy Frey. À l'intérieur, dans la salle d'audience, Marie-Claire entend. Elle entend les slogans. Elle se dit, c'est pour moi tout ça. Il va falloir que je tienne le coup. Elle se lève pour parler. Et pour la première fois, elle raconte le viol. Et elle assume. Elle assume tout.
C'est pas la peine d'aller chercher des noises à ma mère. C'est moi. C'est moi toute seule qui ai pris la décision de me faire avorter. Je voulais pas devenir mère à 16 ans.
En vérité, les juges sont très embarrassés. Elle a été violée, c'est une circonstance atténuante. Mais elle n'a pas porté plainte contre son violeur. Alors comment justifier cette circonstance atténuante ? Quand Gisèle Halimi se lève pour plaider, elle aussi entend les gens à l'extérieur qui crient « Libérez Marie-Claire ! Libérez Marie-Claire !»
Si Marie-Claire était issue d'un milieu favorisé, elle aurait avorté confortablement dans une clinique suisse, anglaise,
voire parisienne. Mais il y a deux poids, deux mesures. Les femmes aux revenus confortables peuvent avorter dans un milieu médicalisé et sans crainte d'être poursuivies. Alors que pour celles des classes défavorisées, l'avortement est souvent réalisé par des incompétentes et les hémorragies fréquentes et le risque de poursuites judiciaires. Si vous regardez les 5 à 600 jugements prononcés chaque année pour avortement, 35% sont des employés de bureau, 26% sont des ménagères, 5% sont des ouvrières, toutes des femmes de milieu populaire.
Quelques minutes plus tard, Marie-Claire apparaît en haut des marches du palais de justice de Bobigny, toute frêle, dans son manteau bleu. Elle a été relaxée. Les juges ont retenu l'excuse de jeunesse. Voilà comment c'est formulé. Attendu que Marie-Claire Chevalier, écolière à peine âgée de 16 ans, non préparée à l'état où elle se trouvait, ni avertie des risques qu'elle courait, n'a pas librement et délibérément choisi d'accomplir l'acte qui lui est aujourd'hui reproché, qu'elle a souffert de contraintes d'ordre moral, familial et social auxquelles elle n'a pas pu résister, elle est donc relaxée. Ce jour-là, Gisèle Halimi dit à Michel, la mère.
Tu sais, Michel, pour toi, ça sera beaucoup plus dur, hein.
L'après-midi de la relaxe de Marie-Claire, le premier coup de fil de Gisèle Halimi est pour Simone de Beauvoir.
Elle a été relaxée. Oh merde, j'avais déjà écrit mon papier pour le Nouvel Observateur. Je pensais qu'elle allait être condamnée, moi. C'est suspect, cette relaxe, non? Le pouvoir magouille. Il veut casser notre mouvement, non?
Gisèle Halimi est un peu abasourdie. Parce que pour elle, c'est une victoire.
Écoutez, Simone, le vrai procès, c'est dans 3 semaines, hein? Vous verrez, on va en faire le procès de la loi.
Le procès de Michel Chevalier, de ses deux copines de la RATP, Lucette et René, et de l'avorteuse Micheline Bambuc, sera public. Maître Halimi a décidé d'en faire un procès politique. Elle va passer par-dessus la tête des magistrats. Elle va parler directement à l'opinion, au pays. Et pour ça, elle a envie de faire venir des grands témoins. Des gens comme Simone de Beauvoir, ou Françoise Fabian, la comédienne, ou le biologiste Jean Rostand, ou le professeur Paul Miliez, qui est catholique mais qui défend l'avortement. Alors elle décide de soumettre sa stratégie de défense à une assemblée générale du MLF et du mouvement Choisir. Et elle tombe sur un os.
Tu veux faire venir des grands témoins? Et donc tu veux faire venir des mecs? Faut que des femmes. C'est un procès de femmes. Et des femmes anonymes. Et surtout pas de mecs.
Gisèle Halimi est atterrée. Et Michel, Lucette et René qui sont là, aussi. Lucette se lève à son tour.
Je comprends pas votre attitude. Moi je suis une femme du peuple. Et j'ai besoin de voir à la barre le professeur Monod, le professeur Jacob, le professeur Rostand me dire à moi qui sais rien, que je suis pas coupable.
On vote à main levée et le projet de grand témoin de Gisèle Halimi est rejeté. Tant pis, se dit Gisèle Halimi, une défense, c'est un tête-à-tête entre un avocat et l'accusé. Ça ne se gère pas en réunion plénière, qu'elles aillent se faire voir. Elle fera ce qu'elle a prévu. Le procès s'ouvre le 8 novembre 1972 à 8h du matin. Devant le palais de justice de Bobigny, des centaines de manifestants avec des banderoles. La Suisse pour les riches, les assises pour les pauvres. Le procès commence par l'audition des accusés. La première à être interrogée est Micheline Bambuc, l'avorteuse.
Je reconnais que j'ai accepté d'avorter Marie-Claire contre une somme de 1200 francs. Je suis veuve, vous savez, et j'ai 2 enfants à charge. Qu'avez-vous fait, madame, quand vous êtes allée voir Marie-Claire pour la première fois? Eh bien, je l'ai examinée, Avec un spéculum? Vous l'avez examiné par la bouche? Ah non, monsieur. Pas par la bouche, non?
Ensuite vient le tour de Michel Chevalier, la mère.
Vous savez, j'ai surtout voulu éviter à ma fille la vie de mère célibataire que j'ai moi-même connue. Je ne regrette rien. Même si c'est Marie-Claire qui a pris sa décision. Seule.
Et ensuite, Lucette, qui a fait l'intermédiaire avec René, qui a donné le numéro, assume.
Vous savez, je suis catholique. Pour moi, je l'aurais pas fait. Mais j'ai changé là-dessus. Si c'est fait dans certaines conditions, eh bien, je pense que c'est à la femme de décider.
Ça n'est pas le problème, madame.
Si! Si, pour nous, c'est le problème!
Maître Halimi vient de surgir de son banc.
Pour nous, c'est même le seul problème. Nous ne faisons pas mettre le procès d'une loi. Si! Si personnellement, je le ferai.
Ensuite, on passe à René, qui a donné le numéro de la faiseuse d'ange. Elle assume, elle aussi. Ensuite, on passe aux témoins. Et la première, eh bien, c'est Marie-Claire. Elle raconte à nouveau tout, mais pas le viol. Et après, c'est au tour des grands témoins auxquels le président va mettre des bâtons dans les roues. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les faits, pas la politique. Michel Rocard, dirigeant du PSU, est le premier.
Monsieur, que pouvez-vous nous dire sur les faits eux-mêmes?
Écoutez, je suis indigné de la législation française actuelle qui place ces femmes sur le banc des accusés, et je prépare d'ailleurs une proposition de loi sur le droit à l'avortement.
Tenez-vous aux faits, monsieur Rocard, je vous en prie.
Le professeur de médecine Paul Miliez est le grand témoin suivant.
À titre personnel, je n'ai pratiqué qu'un seul avortement alors que j'avais 19 ans et que j'étais jeune externe. Et bien que catholique pratiquant, je l'ai fait parce que j'ai été touché par le désarroi d'une jeune femme en détresse. Et ensuite, je ne l'ai plus fait moi-même, mais je les ai orientées, ces femmes, disons. Vous savez, nous, nous sommes des bourgeois. Nous connaissons les méthodes contraceptives. Mais ces femmes du peuple, on ne leur a pas enseigné.
Le docteur Palmer, gynécologue, vient ensuite donner des chiffres.
J'estime qu'il y a entre 360 000 et 1 million d'avortements pratiqués chaque année en France, et que dans 1% de ces cas, les femmes en meurent.
Le docteur Mandel, neuropsychiatre, et le grand témoin suivant.
Vous savez, une grossesse non désirée n'est pas sans conséquence pour la femme, mais aussi pour l'enfant qui n'a pas été voulu.
Arrive ensuite Jacques Monod, directeur de l'Institut Pasteur et prix Nobel de médecine. Le président est agacé.
Je suppose que c'est encore un témoin de moralité qui ne connaît rien à cette affaire. Monsieur le président, je vous le dis, si j'avais fait la connaissance de Madame Chevalier, je l'aurais aidée à faire avorter sa fille.
Puis vient l'actrice Françoise Fabian.
Je n'ai pas honte de le dire. J'ai moi-même avorté. En 1971, juste avant Marie-Claire.
Et puis l'actrice Delphine Seyrig.
J'ai avorté à plusieurs reprises. Parce que j'ai estimé que c'était mon droit de ne pas avoir d'enfant.
Et arrive Simone de Beauvoir.
La loi qui interdit l'avortement a été mise en place pour opprimer les femmes. L'exaltation de la maternité n'est qu'une façon de garder la femme au foyer et sous couvert de missions naturelles, de lui faire accomplir des tâches domestiques non rémunérées.
Et maintenant, place au réquisitoire et à la plaidoirie de Maître Halimi. Le procureur de la République se lève.
La culpabilité de ces quatre femmes ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, elles ont reconnu les faits.
Bien sûr, je reconnais aux accusés la circonstance atténuante de pauvreté. C'est un argument recevable. Mais il ne fait pas disparaître le délit. La défense nous dit la loi est périmée. Il n'appartient pas au juge d'abroger la loi, mais simplement de l'appliquer. Il réclame donc du sursis pour Micheline Bambuc et une amende, et pour Michel Chevalier, une sanction, sans en dire plus. Quant à Lucette et René, dont il dit qu'elles sont à l'écart du délit, il veut une sanction de principe. Et puis arrive la plaidoirie de Maître Gisèle Halimi.
Je veux vous dire d'abord que je m'identifie totalement avec ces quatre femmes. Elles sont ma famille. Voilà 20 ans que je plaide, messieurs. Je n'ai jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État ou d'un médecin célèbre, ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Jamais. Je n'ai plaidé que pour des femmes pauvres, vulnérables, sans argent, sans relation. Vous condamnez toujours les mêmes, les Madame Chevalier. Savez-vous, messieurs, que les rédacteurs du Code civil, dans leur préambule, avaient écrit ceci. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Alors certes, le Code civil a changé, mais ce qui n'a pas changé, c'est que nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. Regardez-vous et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes. Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps? Ce jugement, messieurs, vous le savez, ce jugement de relax que vous allez prononcer, sera irréversible. Messieurs, il vous appartient de dire aujourd'hui que l'ère d'un monde fini commence.
Le jugement dans cette affaire est rendu le 22 novembre 1972. Il n'est pas sévère, mais ça n'est pas non plus une relaxe générale. René et Lucette sont relaxés. Mais Micheline Bambuc est condamnée à 1 an de prison avec sursis. Et Michel Chevalier est condamné. 500 francs d'amende avec sursis. Elle fait appel. Et la justice oublie de la convoquer à un nouveau procès. Elle bénéficie donc de la prescription. Et en droit, Michel Chevalier n'a jamais été condamné. Deux ans plus tard, Simone Veil présente le projet de loi qui légalise l'avortement en France en Conseil des ministres. Et la loi Veil est promulguée au Journal officiel le 17 janvier 1975. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant sur le livre de Catherine Valenti chez Larousse, Bobigny, le procès de l'avortement.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.